Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Avec tous les soucis qu'on a en ce moment dans la police, les risques d'attentats, les problèmes de suicide, ça alourdit le bilan, quoi.
Qui était Michael H ? Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer 4 de ses collègues à la préfecture de police de Paris ? L'enquête est en cours.
Nous suivrons les dernières informations et nous irons à Gonesse, là où il habitait. Ses voisins sont abasourdis. Que s'est-il passé dans le Jura ? Intoxication générale sur une quinzaine de collégiens qui disputaient un cross.
Elle a fait une crise, avait les yeux qui vrillaient dans tous les sens, elle le tremblait de tous les sens. Moi, je suis tombée par terre parce que je crois, une crise d'asthme. On est tous tombés comme des dominos.
Nous serons sur place dans ce journal. Emmanuel Macron s'invite chez les éleveurs. Visite surprise à Cournon, près de Clermont-Ferrand. Échange tendu avec des professionnels touchés par la sécheresse, mais aussi échaudés par l'accord de libre-échange avec le Canada. Dans ce journal...
Je suis agriculteur depuis 20 ans.
Ça fait 20 ans que
je suis président.
Non,
ça n'a jamais changé. On a toujours laissé importer de plus en plus de la viande.
Échange tendu et nous retrouverons Adrien Beck qui est sur place. Dans ce journal également, l'Assemblée vote la reconnaissance de la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger malgré l'avis du gouvernement. En clair, la GPA est pour l'instant autorisée en France. C'est le jour de la Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes tirées au sort pour donner des idées de lutte contre le réchauffement climatique. Une découverte monumentale, un exosquelette pour les tétraplégiques, deux bras, deux jambes, c'est inédit. Et puis, c'est vendredi, toutes nos idées de sortie pour le week-end. La première étant peut-être d'aller voir la statue de Jeff Koons dévoilée ce matin près des Champs-Élysées. La tendance météo, Céline Dacosta, un temps mitigé cet après-midi.
Oui, avec un axe pluvieux entre les Hauts-de-France et le Grand Est, des averses qui déborderont fin d'après-midi vers l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté. Un ciel également variable entre le Sud-Ouest et les Alpes du Nord. Le soleil, il en reste, on verra où tout à l'heure.
Merci Céline Dacosta, on vous retrouve à midi et demi pour une météo complète.
Europe 1.
C'était donc hier, à la pause déjeuner, un informaticien de la préfecture de police de Paris tuait 4 de ses collègues avec un couteau de cuisine.
Oui, et pour l'instant, difficile de dire ce qui lui est passé par la tête. L'homme a été abattu finalement par un policier alors qu'il se trouvait dans la cour de la préfecture. Guillaume Biet, beaucoup de questions autour de cette tuerie. Quelles sont les dernières hypothèses ?
Alors, plusieurs pistes sont étudiées par les enquêteurs de la brigade criminelle. La toute dernière en date est celle d'un coup de folie. C'est ce qui ressort des déclarations de son épouse en garde à vue ces dernières heures. Elle a raconté aux policiers que son mari aurait fait une crise de démence la nuit précédant le drame. Malgré tout, hier matin, il est venu travailler normalement. Toute la matinée, il a assuré la maintenance informatique sans éveiller de soupçons particuliers jusqu'à son attaque meurtrière à la mi-journée dans son propre service. Son profil psychologique est évidemment examiné. On nous le décrit comme un homme réservé, taciturne. Ses proches sont entendus. Le matériel informatique saisi chez lui est analysé. La piste du mobile professionnel est aussi envisagé pour tenter de comprendre pourquoi il a d'abord tué 3 policiers de son service. Est-ce qu'il se sentait discriminé, lui qui était malentendant ? Y avait-il un conflit interne ? C'est aussi une hypothèse examinée. Quant à la piste terroriste, elle n'est pas écartée, mais elle est loin d'être privilégiée. L'antiterrorisme n'a pas été saisi. Après son mariage avec une musulmane, la conversion à l'islam de cet homme de 45 ans n'apparaît pas à ce stade comme un signe de radicalisation islamiste. Aucun élément de cette nature n'a été retrouvé chez lui.
Merci à Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Michael, c'est son prénom. Il habitait à Gonesse, dans le Val d'Oise. Des perquisitions ont été menées dès hier au domicile du couple. Comment réagissent les voisins sur place Théo Manval ?
Tous les voisins décrivent l'assaillant comme un homme discret, poli, musulman pratiquant, mais sans aucun signe laissant penser à une radicalisation.
Oui,
Eric est le gardien de la résidence où il vivait.
Il était même bien rasé, habillé normalement. On est surpris, parce que jamais on n'aurait cru à tel acte. Rien ne m'aurait inquiété sur son comportement, quoi.
Malentendant, le couple ne s'exprimait pas aisément, mais Patricia, qui se présente comme une amie, évoque une souffrance, un mal-être au travail chez l'homme de 45 ans.
Oui, il voulait quitter la préfecture, parce qu'il n'était plus bien là-bas, il n'en pouvait plus. Vous savez, en plus, quelqu'un qui a un handicap, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas crier son désarroi, vous vous imaginez ce que c'est ? Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à le croire. Une personne comme ça, j'imagine même pas qu'elle soit capable d'en arriver à tuer 4 personnes sans raison.
L'incompréhension et l'émoi sont d'autant plus forts dans cette résidence tranquille de Gonesse qu'elle abrite de nombreux employés de la préfecture de police.
Je viens de recevoir un message en me disant que c'était dans mon immeuble.
Samy est gardien de la paix, il habitait dans le même bâtiment que l'assaillant.
Je suis choqué, la tristesse et de la colère parce que avec tous les soucis qu'on a en ce moment dans la police, les risques d'attentats, les problèmes de suicide, ça alourdit le bilan, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça.
Les enquêteurs et la police scientifique ont ratissé l'appartement jusque tard dans la soirée à la recherche du moindre début de piste.
Théo Manval à Gonesse pour Europe 1. Sachez que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, accompagné de son second Laurent Nunez, se sont d'abord rendus à Percy ce matin pour rendre visite à la policière blessée. Ils sont ensuite allés à la préfecture de police de Paris où ils ont observé avec le personnel une minute de silence.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 4. La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Elisabeth Assayag.
C'est l'autre grand titre de l'actualité, cette intoxication massive et quasi immédiate qui a frappé une quinzaine de collégiens hier dans le Jura.
Oui, lors d'un cross disputé à Morbier, 80 élèves dans la course et une quinzaine vers 15h30 pris de douleur, de convulsions, de malaise après s'être ravitaillés sur un stand qui comportait des brioches et du sirop. 5 jeunes filles hospitalisées, 2 dans un état d'urgence absolue, 1 dont le pronostic vital est engagé. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place. Est-ce qu'on a des nouvelles des enfants ?
Alors à cette heure, une seule adolescente est encore hospitalisée à Besançon. Son état est toujours jugé sérieux, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Tous les autres, à savoir une quinzaine de collégiens de 3e, sont rentrés chez eux. Leurs copains décrivent une scène assez hallucinante, intervenue juste après le cross au moment du ravitaillement. Écoutez.
Ma copine était en train de boire ce sirop. Elle est tombée devant moi. Elle a fait une crise, elle avait les yeux qui vrillaient dans tous les sens. Elle le tremblait de tous les sens. On est tous tombés comme des dominos.
Il y avait des gens qui vomissaient dans les lavabos. Il y en a qui tombaient par terre, ils étaient inconscients, il y en a qui faisaient des crises d'épilepsie à moitié, et puis du coup, bah, on a un peu paniqué.
Juste après avoir mangé le ravitaillement.
Ouais, direct après.
C'était quoi ?
Bah, du pain de mie, du sirop, et puis il y avait des morceaux de sucre.
Et toi, t'en as pas mangé
du coup ? Bah, j'ai mangé du pain de mie et du sirop, mais du coup, ça peut pas être ça, parce que mais on pense plus que c'est le morceau de sucre.
Voilà, les carrés de sucre, le sirop, pour le moment, chacun a une interprétation différente. En tout cas, tout, y compris les gâteaux, les viennoiseries, la brioche et l'eau, ont été saisis. Des analyses sont en cours, mais selon Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon, l'eau est hors de cause.
Les analyses qui ont été faites ont exclu que ça puisse être une intoxication collective par l'eau. On en est certain.
Alors, autre piste explorée par les enquêteurs, des médicaments qui auraient pu être ingérés par certains adolescents ou de simples goûters amenés par l'un d'eux et partagés. Tous les sacs ont en tout cas été fouillés hier, juste après les malaises et les vomissements. La section de recherche de la gendarmerie de Besançon est actuellement à pied d'œuvre.
Merci Jean-Luc Boujon dans le Jura pour Europe 1.
Ça s'est passé tard hier soir. L'Assemblée a voté un amendement qui reconnaît la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger.
Sujet sensible auquel le gouvernement est d'ailleurs opposé, d'autant plus sensible Virginie Riva, qu'en clair, par ce texte, la GPA n'est pas autorisée, mais c'est une reconnaissance de facto des enfants nés à l'étranger.
Oui, en clair, avec cet amendement, si vous êtes en couple et que vous faites une GPA en Roumanie, où le tribunal reconnaît que vous êtes père et mère de cet enfant, alors cette décision est automatiquement reconnue dans le droit français, alors qu'aujourd'hui un des deux parents doit adopter l'enfant. Le problème, c'est que cet amendement a été adopté contre l'avis du gouvernement, le gouvernement qui ne cesse de dire depuis le début de l'examen de la loi bioéthique que le mot même de GPA ne figure pas dans le projet de loi, ce qui est vrai, mais cet amendement change tout. Il est passé à 22h par vote à main levée dans un hémicycle totalement vide, porté par 13 députés En Marche, dont le rapporteur du projet de loi Jean-Louis Touraine. L'amendement a été voté par quelques députés En Marche, une voix LR, une voix Modem et les voix de la gauche.
Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui était présente dans l'hémicycle hier soir, a tout de suite dit qu'elle demanderait une seconde délibération. En clair, l'amendement va être revoté dès mercredi et En Marche va faire en sorte d'organiser les forces en présence pour qu'il tombe. Mais dans le groupe, il y a un peu de colère, vous l'imaginez. Un député En Marche présent hier soir dans l'hémicycle me disait « ça n'est pas possible de se tirer une balle dans le pied comme ça ». La droite crie depuis hier à la trahison et c'est du pain béni pour la Manif pour tous qui fait sa marche ce dimanche. Elle ne cesse de dire que l'arrière-pensée du gouvernement, c'est d'un jour autoriser la GPA.
Merci de ces explications. Virginie Riva.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 8.
Europe 1.
Dans un instant, le clash entre les éleveurs et Emmanuel Macron. A tout de suite.
Il est midi 10, la suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Elisabeth Assayag.
C'est une visite inopinée. Emmanuel Macron, qui tenait hier un grand débat à Rodez sur les retraites, a pris ce matin la direction de Cournon, près de Clermont-Ferrand.
Oui, sans passer par la case Paris, le président a quitté l'Aveyron pour aller directement dans le Puy-de-Dôme et passer effectivement la matinée au sommet de l'élevage des éleveurs très remontés sur deux sujets, la sécheresse et le CETA.
Nous, ce qu'on est en train de vouloir bouger, de changer, c'est de faire que quand on va au restaurant en France, quand on va dans une école, etc., on puisse manger français.
Ça, c'est des paroles dans l'action.
Non, non, non.
Je suis agriculteur depuis 20 ans.
C'est pas 20 ans que je suis président.
Non, on a toujours laissé importer de plus en plus de la viande.
Très sincèrement, compte tenu de la consommation, et si on fait un vrai étiquetage, et compte tenu du fait que nos concitoyens aujourd'hui, ils veulent de la viande de qualité, ils sont sensibles à ça, moi je ne crois pas que ce sera notre problème. Non, mais ce sera pas ça notre problème. Ce qu'on doit faire, non,
notre problème... On ne fait pas des normes que les gens ne respectent pas, oui. On ne laisse pas rentrer les produits qui ne respectent pas les mêmes normes.
Emmanuel Macron ce matin à Cournon d'Auvergne avec les éleveurs. On retrouve Adrien Beck à Cournon. On l'entend dans cet extrait, Adrien. Pas facile de répondre aux inquiétudes des éleveurs.
Ah oui, absolument, d'autant que le contexte est tendu. Hier, 3 députés de la majorité ont été exfiltrés de ce salon en cause leur vote pour le traité commercial entre le Canada et l'Union européenne. Alors, depuis qu'il est arrivé ici, peu avant 9h, Emmanuel Macron tente de répondre aux doléances de toute une filière, à la fois très remontée, on vient de l'entendre, et très inquiète aussi. On est mal, monsieur le président, on a l'impression d'empoisonner les gens, lui a crié un éleveur. Ma place est aux côtés des agriculteurs, a repris de son côté le chef de l'État. Ce déplacement pourtant n'était pas prévu à l'agenda du président. Il a été organisé très tardivement dans le secret en marge d'un autre déplacement pour les 100 ans du journal La Montagne ce soir à Clermont-Ferrand. C'est à 10 km d'ici. Emmanuel Macron qui a aussi rencontré des représentants de la FNSEA notamment tôt ce matin et il l'a reconnu. Si je ne viens pas ici à Cournon, ça va être mal pris par les éleveurs. Il a donc choisi de faire un crochet par ce salon, long crochet puisque le chef de l'État est ici depuis plus de 3 heures maintenant.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1 en direct de Cournon d'Auvergne.
Et encore une initiative pour tenter de trouver une solution au réchauffement climatique.
La convention citoyenne organisée au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, citoyenne car on a pioché 150 Français parmi 250 000 et Virginie Selmen, on leur a demandé d'apporter leur solution.
Oui, alors tout part d'une idée de Cyril Dion, le réalisateur du film Demain avec son collectif Les Gilets Citoyens. En janvier dernier, il publie une lettre ouverte, puis avec Marion Cotillard, ils vont rencontrer Emmanuel Macron pour le convaincre de faire participer des citoyens à l'élaboration de solutions. Alors ces Français lambda, entre guillemets, se réunissent à partir d'aujourd'hui pour 6 week-ends de travail. Une seule question leur est posée, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 ? C'est l'objectif officiel de la France, dans un esprit de justice sociale, allusion évidemment aux Gilets jaunes. Alors certains l'avouent eux-mêmes, ils ne connaissent rien aux problématiques écologiques. Alors pour rendre leur décision en connaissance de cause, ils vont auditionner des experts alors sur la biodiversité, le prix de l'essence, la rénovation thermique, tout ce qui leur semblera nécessaire. Ensuite, ils ne feront pas de simples propositions, ce n'est pas un cahier de doléances, non. Ils devront carrément pré-rédiger des textes de loi avec l'aide de juristes. Ces textes qui seront ensuite transmis sans filtre au gouvernement. L'étape d'après, c'est, selon les sujets, un référendum ou bien un vote au Parlement ou encore un décret.
Merci Virginie Selmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Il est midi 14, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Elisabeth Assayag.
C'est inédit et c'est français. Des chercheurs sont parvenus à construire un exosquelette pour les tétraplégiques.
Oui, et c'est le centre Clinatech qui a décidé de réagir à l'accident de Thibault, 28 ans, paralysé de ses 4 membres après une chute et de réaliser en effet un exosquelette complet, c'est-à-dire 2 bras, 2 jambes. Mélanie Gomez, comment est-ce que ça fonctionne ?
Eh bien, en fait, l'innovation, elle n'est pas tellement dans l'exosquelette en lui-même, cette espèce d'armure, effectivement, dans laquelle on glisse, bien attaché, la personne paralysée des 4 membres. Là, ce qui est révolutionnaire, c'est que ce robot, c'est le patient lui-même qui le dirige par sa pensée. C'est-à-dire, il pense « je vais avancer le bras droit », eh bien, en temps réel, il avance son bras droit dans l'exosquelette. Et ce pilotage mental, s'il est possible, c'est grâce à un capteur inédit que ces chercheurs, au centre donc de recherche du CEA à Grenoble, ont implanté à la surface de son crâne. Un capteur avec 64 électrodes qui recueille les signaux électriques d'intention de mouvement de son cerveau, les décode en temps réel et donc envoie sans fil l'ordre à l'exosquelette de se mouvoir. Après 2 ans d'entraînement, Thibault, entièrement paralysé après une lésion de la moelle épinière, peut donc maintenant avancer les jambes du robot, plier le coude et même encore lever les épaules.
Mais malheureusement, c'est pas pour demain.
Alors effectivement, ces chercheurs ont montré que ça marche, en tout cas sur un patient pour le moment. 3 autres vont suivre, mais déjà cette équipe travaille sur d'autres solutions à partir de cette technologie qui pourrait améliorer l'autonomie des paralysés au quotidien. D'ici quelques années, cela pourrait être implanté ce capteur chez des patients paralysés pour qu'ils dirigent par la pensée leur fauteuil roulant ou même un bras motorisé.
Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. On vous retrouve tout à l'heure à 15h pour votre émission Sans Rendez-vous.
Un projet de loi pour encadrer l'ouverture des supermarchés le dimanche.
Oui, vous avez sans doute entendu parler du géant Casino d'Angers. Eh bien, plusieurs députés En Marche ont porté un texte devant le Parlement pour justement autoriser l'ouverture des supérettes le dimanche. Emmanuel Duteil, c'est aussi pour mettre un peu d'ordre, car c'est vraiment au coup par coup. Il y a certains magasins qui ouvrent et d'autres non.
Oui, aujourd'hui, ce n'est vraiment pas très clair. Dans certaines grandes villes, vous avez effectivement quelques petites supérettes qui ouvrent toute la journée du dimanche. Soyons très très clairs, c'est illégal. Logiquement, elles n'ont pas le droit de faire travailler des salariés l'après-midi, sauf si elle n'embauche pas de personnel. En tout cas, ce que veut la grande distribution, épaulée en effet par des députés En Marche qui sont prêts à porter cette envie, c'est de rénover un peu la loi et de permettre, soit de temps en temps, soit tout le temps, à la grande distribution d'ouvrir le dimanche après-midi. Alors l'idée, c'est pas obligatoirement d'ouvrir partout, hein. L'idée de certains grands noms de la distribution, c'est d'avoir la possibilité de le faire. Les grandes enseignes comme Carrefour et Casino mettent en avant le fait que les habitudes évoluent et que de plus en plus de clients feraient leurs courses le dimanche. C'est une manière aussi de répondre aux sites de commerce en ligne qui sont ouverts, eux, tout le temps, bien évidemment. Cette proposition de loi pourrait être déposée après les municipales, c'est-à-dire au début de l'année prochaine. Au ministère de l'économie, on n'est pas totalement contre cette idée. On dit même que l'on va étudier la proposition.
C'est du langage diplomatique et politique. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Il est midi 17.
Europe 1.
Dans un instant, les mondiaux d'athlétisme avec une figure tricolore, la culture avec une figure de l'art contemporain. A tout de suite. Il est midi 20, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag. Le sport avec les mondiaux d'athlétisme à Doha, au Qatar.
Oui, et une figure hein, ce soir, la doyenne et maman Mélina Robert-Michon, spécialiste du lancer de disque, vice-championne olympique de Rio en 2016, Corinne Boulou. Elle va tenter de rafler une troisième médaille tricolore.
Oui, elle qui, ses deux derniers championnats, est toujours montée sur le podium. C'est grâce à la Lyonnaise d'ailleurs hein, que le disque sort de l'anonymat à chaque grand championnat. À 40 ans, Mélina Robert-Michon compte 60 sélections en équipe de France. Elle a fait ses débuts sous le maillot tricolore en 1998 et ces dernières années, eh bien, elle est devenue la référence dans un athlétisme féminin français moribond avec toujours la même motivation pour ses 7e championnats du monde.
Si j'avais plus envie, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Je pense que c'est, en tout cas, ce qui me guide, c'est ça. C'est, je m'éclate dans ce que je fais et je suis contente d'être là. Et je pense que c'est un bon moteur.
Vice-championne olympique à Rio, double médaillée mondiale. Mélina est aussi la maman de deux fillettes, dont la dernière, Elissa, est née en juin 2018. Mais cela n'a pas empêché la lanceuse d'obtenir sa 6e finale mondiale à Doha, aidée en cela par l'expérience de sa première pause maternité.
C'est presque un peu plus facile parce que j'ai moins l'incertitude en fait. La première fois, je partais dans un truc que je connaissais pas, je savais pas si j'allais arriver à revenir, si comment ça allait se passer. Là, j'ai l'expérience de la première, je me dis que je l'ai fait une fois, donc il y a pas de raison que ça marche pas une deuxième fois. Voilà, c'est plus tranquille, on va dire.
Ici en qualification, Mélina Robert-Michon a réalisé sa meilleure performance pour sa saison de reprise. Et vous pouvez compter sur elle pour bousculer les favorites en finale ce soir, Elisabeth et Pierre.
Merci, on compte sur elle et oui. Passez-lui le message. Merci Corinne Boulou, envoyée spéciale d'Europe 1 à Doha. C'est ce matin que l'immense Jeff Koons a présenté son bouquet de tulipes, ça s'appelle comme ça, près des Champs-Élysées. Diane Chénouda, vous êtes sur place. Il faut le dire quand même que c'est une œuvre qui avait créé la polémique, hein.
Oui, absolument. Alors, le fameux bouquet de tulipes gonflable et multicolore de Jeff Koons a en effet été dévoilé tout à l'heure par l'artiste lui-même dans ce jardin des Champs-Élysées entre le Petit Palais et la Concorde. Alors, c'est, vous le savez, un cadeau de Jeff Koons en hommage aux victimes des attentats de Paris et Nice, un hommage que symbolise cette main tendue. C'est vraiment ce cadeau de Jeff Koons, cette main qui tient ce bouquet de 11 tulipes imaginé par l'artiste américain. Écoutez.
Ces fleurs gonflables incarnent la perte, la renaissance et la vitalité de l'esprit humain pour figurer la perte qui a affecté les victimes et leurs familles. Le bouquet est composé de 11 fleurs seulement. La 12e manquante personnalisera à jamais la perte née des attentats.
Ce bouquet est aussi pour Jeff Koons un clin d'œil, une référence à la statue de la liberté qui tient la torche et au bouquet de l'amitié de Picasso. Un cadeau qui s'accepte, ça s'accepte, a souligné la maire de Paris, Anne Hidalgo. Allusion évidemment à la polémique qui avait éclaté il y a 3 ans. C'est un cadeau du cœur des Américains, a-t-elle dit.
Merci Diane Chédouda en direct des Champs-Élysées pour Europe 1.
Et on passe au Journal de la Culture avec vous Nicolas Carreau, bonjour.
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 Alors, vous avez apporté quelques bonnes idées de sorties culturelles pour ce week-end ?
Oui, et on peut commencer par la Nuit Blanche, traditionnelle Nuit Blanche, on peut le dire maintenant. C'est demain soir à Paris, cette année c'est une Nuit Blanche en mouvement. Une partie du périphérique par exemple sera fermée pour laisser la place à des cyclistes bardés de lumière. Il y a la Grande Traversée qui consiste à visiter les musées de la ville au pas de course, mais littéralement, c'est-à-dire 10 km à travers Paris et ses musées. Et puis une parade est prévue aussi avec des chars conçus par des artistes qui défileront entre la Concorde et Bastille. Diane Chénouda a rencontré le directeur artistique Didier Fusillier.
Tout ça est fait dans un caractère à la fois de fête, mais aussi d'art contemporain. C'est ça peu le mix, beaucoup de musique, énormément de musique, et surtout des choses à voir avec ses enfants. C'est une nuit blanche où les enfants ne vont pas dormir, on les couchera à 5h du matin épuisés, c'est un peu notre envie.
Voilà, l'expo au musée d'Orsay, l'expo de gars avec des rollers, quoi. Voilà. Hein, c'est ça, hein, voilà. Super, la nuit blanche demain, peut-être un peu de cinéma sinon.
Mathieu Charrier vous conseille d'aller voir Le regard de Charles, un documentaire avec des images d'archives. Filmé par Charles Aznavour lui-même, Édith Piaf lui a offert une caméra en 1948. Elle ne l'a jamais quittée et on peut découvrir son regard dans ce film, ses amis, ses amours.
Ses emmerdes. Allez, disons-le. Un livre, tiens, puisque vous êtes là, Nicolas.
Et pourquoi pas un polar, même. Un polar d'un style nouveau. C'est le premier roman virtuose de Guillaume Lavenant, Protocole gouvernante chez Rivage. C'est écrit au futur, ça commence par... Vous irez sonner chez eux un mercredi, au mois de mai. Vous serez bien habillé avec ce qu'il faut de sérieux dans votre manière d'être peigné. Ces mots s'adressent donc à une gouvernante qui débute dans une famille bourgeoise. Au départ, rien d'extraordinaire. Et puis tout doucement, on se rend compte qu'il se passe quelque chose d'étrange. Les instructions lui demandent bientôt, par exemple, d'aller verser de l'eau régulièrement dans la rainure du parquet devant la porte d'entrée. Bizarre, bizarre. 180 pages, ça se lit d'une traite en apnée.
En apnée aussi la musique ?
Avec Alex Baupin, mais là on respire, qui sort un nouvel album.
Bah, ça dépend.
Plus jour que la nuit.
Alex Baupin.
Voilà, mais c'est toujours respirant Alex Baupin. Pas plus jour que la nuit, sixième album. Le chanteur quitte un peu sa zone de confort pour partir à la découverte du monde. Il est au micro d'Angèle Châtelier.
Il y a 10 chansons dans l'album, il y en a 5 qui sont des chansons sentimentales et 5 qui sont des chansons un peu plus ouvertes, un peu plus sur l'état du monde qui me racontent. Ça raconte comment moi, comme chanteur, je suis capable de raconter le monde. Donc c'est encore une autre facette de moi, donc ça me raconte encore un peu plus peut-être.
Surtout ne va pas dehors. Il y fait moche et froid, tout l'inverse de ton corps.
Bah on va rester à l'intérieur alors, en écoutant Alex Baupin. Merci Nicolas Caro, une information d'importance qui vient de nous parvenir, c'est une information Europe 1. Sachez qu'un adolescent a été très grièvement blessé devant un collège ce matin. Ça se passe au Lila en Seine-Saint-Denis, blessé avec une arme blanche. Son pronostic vital est engagé. Un mineur suspecté d'être impliqué dans cette violente agression a été interpellé et placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. On revient sur cette information bien sûr dans le journal de 13h.
Merci Pierre de Villeneuve. Il est midi 26. Europe 1.